Vous allez entendre Paroles d'archives, une série radiophonique où des jeunes vous parlent d'histoire. Bonjour, je suis Sabine Lemler, je suis metteur en scène de théâtre et je conçois des projets artistiques et pédagogiques. M'adresser aux jeunes, les rendre acteurs de leur apprentissage est une de mes priorités. Avec les artistes Violaine Marie Membolt et Mathieu Gouste, nous avons créé des spectacles historiques et mémoriels. Paroles d'archives, une histoire alsacienne et périgourdine qui raconte l'évacuation des Alsaciens en 1939 et France-Algérie Correspondance qui parle des liens entre la France et l'Algérie de 1830 à nos jours. C'est dans les collèges et les lycées que nous allons les jouer. Chaque représentation est suivie d'un bord-plateau pour échanger avec les élèves afin qu'ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont vu et qu'ils ne repartent pas avec des questions sans réponse. Dans un désir de prolonger cet espace de parole, nous proposons à des classes l'élaboration d'un épisode pour la série que vous allez découvrir dans un instant. L'idée, c'est que les jeunes s'approprient l'histoire, la grande et la leur propre, qu'ils aillent à la découverte d'archives du passé et que cela leur donne envie d'interroger leurs archives familiales. J'espère pouvoir poursuivre ce projet sur plusieurs années et enrichir cette série radiophonique de multiples voix. Alors bonne écoute et à bientôt!
Paroles d'archives, une série radiophonique où des jeunes vous parlent d'événements historiques du XXe siècle. Cet épisode a reçu le prix Mémoire 2024 de la section départementale de Moselle de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite.
1939-1940, l'histoire d'un exode en Moselle. Cet épisode a été écrit par les élèves de la classe de seconde 3 du lycée Charlemagne de Thionville, une classe agréable et motivée.
Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La France va incessamment sous peu entrer en guerre. Il faut mettre à l'abri la population civile présente sur la ligne Maginot.
Le premier ordre d'évacuation est annoncé par radio à 10h par l'état-major. Les gendarmes préviennent les maires et passent dans les villages pour distribuer des masques à gaz. Les habitants doivent être prêts pour 18h.
Il faut partir, partir vite.
Le 1er septembre 1939, aux alentours de 17h, le garde champêtre est venu toquer chez moi pour informer mes parents de notre évacuation.
Étienne Haas, évacué Mosellan.
On a donc lâché le bétail avant de prendre un peu d'affaires, d'eau et de nourriture dans de grands sacs, puis nous sommes partis de chez nous. Je ne peux pas dire que j'avais vraiment peur car je n'avais que 10 ans et que je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait.
Les adultes sont limités à 50 kg de bagages,
les enfants à 30 kg.
Il faut prévoir des vivres pour 4 jours.
Malgré la chaleur, nombreux sont ceux qui prennent leurs vêtements d'hiver.
Certains enfilent même plusieurs couches de vêtements.
Les objets de valeur sont pris. Mais il faut laisser beaucoup de choses derrière soi.
En rassemblant tout le nécessaire dans un sac à dos, j'ai rassemblé des sous-vêtements et un costume, les papiers précieux ainsi que quelques provisions.
À Éblange, un témoignage admirablement rédigé et d'une belle écriture est l'œuvre d'une jeune fille de 12 ou 13 ans dont l'année scolaire 1939-1940 est celle de son certificat d'études.
Vers la fin du mois d'août, tout le monde était anxieux. On allait écouter des nouvelles que la radio passait, mais de plus en plus, la situation politique devenait critique. Le 1er septembre, premier jour de la mobilisation, le village voisin de Bétange recevait l'ordre de partir. On pouvait lire sur le visage des pauvres gens la désolation, le chagrin d'avoir tout quitté. On pensait « demain sera notre tour ». Quelle terrible nuit! Partout, on voyait des figures baignées de larmes. C'était pour ainsi dire une douleur muette. On ouvrait les écuries et on chassait les bêtes dehors. Pauvres bêtes! Elles semblaient comprendre notre tristesse, aussi elles ne voulaient pas s'en aller. Mais voilà notre tour de quitter tout. Dans la voiture, on avait mis des paquets de linge, habits et vivres.
Il faut
faut partir en Charente, Charente-Maritime et dans la Vienne. La population, pourtant informée de la possibilité d'une évacuation, s'est globalement peu préparée.
C'est une immense panique.
Le voyage va être éprouvant pour de nombreuses personnes, contraintes de marcher pendant près d'une semaine tout en portant des valises.
Elles sont épuisées.
Les plus chanceux sont déplacés en voiture, en bus ou en train.
Même en train, le voyage était dur. Les évacués se déplacent dans des wagons de marchandises ou de bestiaux. Peu d'espace.
Les pleurs des enfants.
Les larmes.
Le manque d'intimité.
L'inconfort.
On se déplaçait dans des villages pour dormir ou manger.
Solange Michel, réfugiée mosellane.
Et on devait se lever très tôt pour repartir.
La plupart des Mosellans n'étaient jamais sortis de leur région. Alors, ceux près des fenêtres ont découvert des paysages qu'ils n'avaient jamais encore vus.
Ça peut paraître bête, mais quand j'ai regardé par la fenêtre du train, j'ai vu pour la première fois de ma vie des citrouilles et ce moment restera gravé dans ma mémoire.
Déracinés, les déplacés Mosellans doivent reconstruire leur quotidien loin de chez eux.
Au lendemain de l'arrivée des Mosellans, commence le long travail de découverte des uns et des autres.
Combien de temps le déracinement allait-il durer ?
Comment faire face à cet afflux de nouveaux habitants ?
Dès le mois de septembre 1939, l'État met en place une allocation versée aux évacués pour leur permettre de subvenir à leurs besoins.
10 francs par jour pour un adulte et 6 francs par jour pour un enfant.
L'accueil des réfugiés n'est pas facile. Les réfugiés sont nombreux et il n'y a pas assez de place pour eux. La majorité des Mosellans reçoivent l'hospitalité, mais se plaignent souvent des conditions d'hébergement.
Nous avions un toit sur la tête, mais quel toit ?
Léopold Nénic de Sierre-Clébin.
Avant notre exil, nous disposions de l'électricité, de l'eau potable, du gaz naturel et d'un espace de vie confortable. Réfugiés, il nous reste l'électricité dans un logement improvisé, petit et sans confort.
Des hôtes mal intentionnés n'hésitent pas à loger les réfugiés dans des locaux insalubres dont eux-mêmes n'auraient pas voulu.
Les familles se répartissent dans des logements, des granges ou autres locaux vides dans le bourg.
Gérard Mas, réfugié mosellan.
Quelquefois, il y avait plusieurs familles par pièce. Les premiers jours, nous avons dormi sur la paille ou à même le sol. Nous manquions de tout. Nous n'avons pas de lit, pas de fourneau, pas de table, ni de chaise. Aucun ustensile pour cuisiner, pas de vaisselle.
Il n'y avait pas de WC. Pas question. C'était rudimentaire, mais c'était comme ça pour tout le monde. En fait, ce n'était pas comme ça chez nous. Ils étaient un peu en arrière de ce côté-là.
Malgré les bonnes volontés, l'intégration de la population est difficile, notamment du fait des différences des habitudes de vie.
On pensait que tout le monde vivait comme nous.
Joseph Rondini, habitant de Ham-sous-Warsberg et réfugié à Lussac-les-Châteaux, dans la Vienne.
On s'est rendu compte que le paysan et le petit bourgeois du centre-ouest se contentaient la plupart du temps d'une habitation modeste, médiocrement entretenue, d'un chauffage rudimentaire et d'une hygiène primitive.
Les Poitevins estimaient pourtant avoir tout fait pour satisfaire les Mosellans.
« Comment osez-vous nous recevoir dans de telles conditions ?» disait la dame. « Mais nous, on avait fait ce qu'on pouvait. On ne pouvait pas donner ce qu'on n'avait pas. »
La langue constitue une barrière dans les relations entre les réfugiés mosellans et les communes d'accueil. En effet, les mosellans parlent un dialecte germanique.
Les préjugés aussi, on l'avait dur.
Faire les courses n'était pas chose facile, mais il fallait bien communiquer. Ainsi, un ancien voulant acheter du veau dit simplement de la petite vache. De même, un autre qui travaillait dans une ferme s'adressa à une jeune fille en ces termes. « Donne-moi un bézen, un balai quoi !» Croyant qu'il en voulait à sa vertu, celle-ci le rabroie fortement, confondant bézen avec baiser.
Il y avait un jeune garçon qui avait mon âge, qui avait l'habitude de se moquer de moi et de m'humilier en m'appelant la frise. Un jour, j'en ai eu marre et on s'est battu. Un policier nous a séparés, m'a pris pour la fautive, uniquement car j'étais une réfugiée.
Ces populations frontalières apparaissent aussi étrangères que l'auraient été des Britanniques.
Christelle Niemensdern, accueillante de réfugiés.
On les savait français puisque c'était pour eux que l'on s'était battu durant la dernière guerre. Mais l'hésitation quant à la conduite à leur égard prévalait. Oh, voilà les Boches qui sont là, il ne manquait plus qu'eux.
Les inspecteurs d'académie demandent au maître d'inciter les élèves mosellans à s'exprimer le plus possible en français, y compris dans la cour de récréation et en dehors des heures de classe, pour leur éviter de se faire mal juger par leurs hôtes.
De part et d'autre, on s'étonnait, on se fâchait, on s'épuisait à expliquer, à comprendre. Chacun, faisant des efforts, réfugiés et hôtes, finissent par se comprendre, s'apprivoiser petit à petit.
Après quelques mois, presque tous les déplacés avaient trouvé un travail et avaient amélioré leurs conditions de vie. Les enfants avaient repris l'école et commencé à prendre l'habitude de parler français et non plus le patois.
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
L'armistice du 22 juin remet les Mosellans sur la route. Le retour des réfugiés est clairement indiqué dans l'article 16 de la Convention de l'armistice.
C'est une priorité politique et économique pour l'Allemagne nazie.
Dès juillet 1940, des Mosellans et des Alsaciens rentrent dans leur région, devenue désormais allemande et nazie.
Ce dimanche 22 septembre 1940, l'heure du départ approchait.
Joseph Herbert de Contes-les-Bains, réfugié à Dissé.
À la gare, après avoir placé toutes ses malles dans le wagon à bestiaux, nous prîmes place dans le wagon des voyageurs. La gaieté ne manquait pas, car les hommes en avaient profité pour faire un dernier plein au bistrot de la gare. À 17h50, c'était le grand adieu. Plusieurs de nos familles d'accueil étaient venues au rendez-vous. Quelques larmes coulèrent, surtout chez les jeunes.
Mais ce retour est parfois un nouvel exil dans un monde qui n'a plus rien à voir avec le pays quitté quelques mois plus tôt.
L'Alsace-Moselle était devenue terre nazie. Toutes les traces françaises étaient effacées. Les rues avaient pris des noms allemands, les gens avaient interdiction de parler français. Les synagogues avaient été brûlées, de nombreux bâtiments détruits.
Un retour à la vie normale sera bien difficile.
Un retour à la vie normale sera sans doute impossible.
Le drame d'Oradour sur Glane a impacté la Moselle, comme le raconte Roger Godefrin, originaire de Charly, village mosellan. En 1940, sa famille décide de rester à Oradour sur Glane, en Haute-Vienne, où ils avaient été accueillis.
Là-bas, Roger aimait bien la famille Thomas, qui avait des enfants de son âge. Il y avait aussi le coiffeur, Monsieur Valentin, qui fabriquait des cannes, et la famille Pinède, des réfugiés juifs de Bayonne. Il y allait souvent chez eux, car ils avaient de bons gâteaux à offrir.
Mais, le samedi 10 juin 1944, la terrible division de la Waffen-SS Das Reich est arrivée. Alors que les Allemands enferment les femmes et les enfants dans l'église et y mettent le feu et que les hommes sont fusillés, Roger, lui, réussit à s'enfuir grâce à sa mère qui lui avait dit
« Sauve-toi si tu vois les Allemands. »
Dans ma fuite, un SS m'a tiré dessus. Je me suis laissé tomber et j'ai fait le mort. L'un d'entre eux est venu vers moi et m'a donné des coups de pied dans le dos et dans les reins. Je n'ai pas bougé. Dès que le calme est revenu, je me suis mis à courir aussi vite que je pouvais.
Roger a perdu sa mère, son père, ses trois sœurs et son frère ce jour-là. Sur les 643 victimes du massacre d'Oradour-sur-Glane, on dénombre 44 Mosellans, dont 39 habitants de la commune de Charly. En mémoire de ce massacre, la ville de Charly devient Charly-Oradour en 1950.
Je m'appelle Anna. Ma famille a vécu la Seconde Guerre mondiale. Fernande Mondet, mon arrière-arrière-grand-mère, était résistante, dénoncée par un voisin. Elle est déportée à Ravensbrück, où elle est gazée en février 1945. Mon arrière-grand-mère, Clémence Sauret, née Ruelle, a raconté son histoire dans son journal que j'ai pu lire des années plus tard. Elle clôt ainsi son journal. C'est cela la guerre. Quand arrivera donc la paix entre les peuples, la haine abattue pour une civilisation unie? On peut encore rêver. Ces deux femmes sont extrêmement courageuses et je suis fière d'être leur descendante.
De nos jours,
malheureusement,
les guerres existent encore.
Les victimes de toutes sortes sont innombrables.
Celles qui ont tout perdu,
qui ont dû quitter leur maison,
leur ville,
leur pays.
Décidément, l'histoire se renouvelle.
D'où l'importance de ne jamais oublier le passé.
On a pu entendre,
écouter,
des témoins directs
de ces événements de la Seconde Guerre mondiale.
On s'est imaginé à leur place.
On s'est demandé comment on aurait fait.
On s'est demandé ce qu'on aurait fait.
À nous de transmettre aux futures générations.
Bravo aux élèves Nour, Maël, Matteo, Lina, Lorenzo, Timéo, Kenza, Thiago, Bastien, Yannick, Ahmed, Dylan, Elsa, Maïsan, Heidi, Anaël, William, Kenza, Camille, Mathias, Gaëtan, Ilan, Reda, Marco, Eline, Amélie, Anna, Lola, Méline, Nolan et Blanche. Merci à leurs professeurs Valérie Trapini, Sandrine Armand, Pascal Hym et Marie Sini. Merci aux proviseurs, proviseurs adjointes et principales, Lucien Piétron, Véronique Terrier et Jean-Pierre Clotilde. Merci aux archives municipales de Thionville pour leur accueil et leur aide précieuse. Enregistrement, Violaine Marine Embold et Mathieu Gouste. Montage et mixage, Mathieu Gouste. Sur une idée de Sabine Lemler, conçue par la compagnie VIA de Strasbourg. Création musicale, les élèves de terminale de la section musique du lycée Marie Curie de Strasbourg et leur professeur Marie-Annick Guillemin. Merci à nos partenaires, la Région Grand Est, l'Organisme National des Combattants et Victimes de Guerre, les Archives départementales d'Alsace, la Collectivité européenne d'Alsace, le Pass Culture et le Crédit Mutuel.